L'année du jubilé. 3 octobre 1954, Jeffersonville, Indiana, USA. Bonsoir, mes amis. Je suis heureux d'être ici ce soir et d'avoir été si bien accueilli. Tout le monde voulait entrer. Je me sens véritablement bien. Je n'ai pas eu tellement l'opportunité de parler ou d'étudier ou quoi que ce soit parce que tous mes services ont été changés. Alors, j'aime tellement parler. Tout le monde sait cela, je suppose. Maman a dit que j'ai parlé avant de marcher. Vous savez ce qu'est le vieux dicton concernant cela. Alors, je suis très heureux de savoir que Dieu a changé mon cœur, que la conversation est à propos de lui, voyez. Et je veux mourir en parlant de lui, chantant ses louanges et faisant ce qui est juste. Nous n'avons pas beaucoup de temps car nous avons un service de communion ce soir. Mercredi soir, ce sera un service d'enseignement où nous enseignerons si le Seigneur le veut. Maintenant, ce soir, juste pour un court moment, quelques minutes, le Seigneur voulant, je désire, c'est un peu inattendu, vous savez, car c'est toujours, je crois que la Bible dit ainsi, en toute occasion, favorable ou non. Soyez disposés à donner ou prêts à donner raison de l'espérance qui est en vous. Et alors, si je peux témoigner de l'espoir qui demeure en moi, alors ce sera une bénédiction pour moi de vous le dire, et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous de le recevoir et de reconnaître qu'à travers votre foi, cela correspond à la même chose. Et la même foi qui est en moi demeure en vous, et nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. J'étais heureux d'entendre parler de ces campagnes de réveil à présent à l'église méthodiste de New Albany. Je n'ai pas compris celle à propos de Louisville, mais peut-être que vous avez entendu ce dont frère Fleeman vient de nous parler. Si vous êtes aux alentours de ces réunions de réveil, allez-y. Allez-y et soyez représentés avec les enfants de Dieu pour montrer de quel côté nous sommes. Nous sommes du côté du Seigneur et nous voulons être représentés avec son peuple. Maintenant, mercredi soir, comme Frère Neville l'a dit, c'est un service d'enseignement. Je pense qu'ils auront une sorte de classe d'enseignement, n'est-ce pas, Frère Neville? Frère Neville répond, oui, note de l'éditeur. C'est très bien. Enseigner la parole garde toujours l'Église édifiée. Nous vivons, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous parlions à propos de l'infaillibilité de cette parole, comment elle devait s'accomplir. Et après qu'ils aient chanté, je pensais, eh bien, de quoi avais-je parlé? Et j'en suis arrivé à cette pensée, tous les saints auront un sceau sur leur front, voyez-vous? Lorsque nous arriverons là-bas, tous les saints auront le sceau sur leur front. Et je pensais ce soir que je lirai une petite portion des Écritures sortie de la Bible, ici quelque part et là dans les Évangiles. Et Jésus, après avoir terminé son sermon, il a dit, « Aujourd'hui, cela, ces paroles sont accomplies. » Maintenant, Christ au commencement, au début de son ministère, est né bien sûr dans le monde comme le Fils de Dieu. Et il est né Jésus le Seigneur, et ensuite après 8 jours à sa circoncision, il fut appelé, maintenant il est né Christ le Seigneur plutôt, et il fut appelé Jésus. Jésus était son prénom, Christ était son titre de ce qu'il était, il était le Christ, loin de Dieu quand il est né. Et maintenant, sachant que le service de communion dure habituellement assez longtemps, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais juste assez pour être bon, ce que nous ressentons de l'Esprit qui agit parmi nous, afin de pouvoir avoir les services. Maintenant, rappelez-vous tous les autres services qui sont annoncés, les campagnes de réveil partout, les malades et les affligés. Il vient juste de me parler concernant qu'il avait visité un foyer dernièrement, où un garçon était possédé du démon et voulant être délivré. Maintenant, la Bible nous dit de nous réunir ensemble et de prier pour ces gens. Vous savez, alors, il y a une petite femme du nom de Georgie Carter qui a été guérie par une vision, oh, il y a bien des années. Elle a été enlevée d'un lit d'affliction avec la tuberculose. Elle gisait là depuis 8 ans et 9 mois, n'ayant jamais été sortie du lit. et je suis descendu prier pour elle, et je, vous savez l'histoire, comment le père et la mère ne croyaient pas en la guérison divine, et je n'étais pas tellement le bienvenu, et la fille voulait être guérie. Alors un jour, chez le frère Wright, j'étais là-bas, ayant un service de baptême, et la fille voulait être baptisée. Et elle ne pouvait pas sortir du lit, bien sûr. Elle n'en était pas sortie de lui depuis 8 années et 9 mois. Et j'étais en prière là-bas, dans le désert, où les bois, et Sir Wright a sonné la cloche afin que nous venions souper. Et je priais tellement, et la présence du Seigneur si proche, que je n'ai même pas remarqué que la cloche sonnait. Et il commençait à faire noir. Et j'ai vu une lumière qui brillait au travers d'un petit arbre cornouillé et disant « Va vers les carters ». Frère Wright, vous étiez avec moi ? Frère George Wright dit « Oui, monsieur, note de l'éditeur ». Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, exactement comme la vision l'avait dit, c'est de cette manière que cela s'est produit. Et Georgie a été guérie instantanément de son état infirme depuis 9 ans et 8 mois sans bouger du lit. Et elle n'est jamais retournée au lit, pour autant que je sache, à moins d'avoir un mauvais rhume ou quelque chose, jusqu'à présent. Et j'ai compris qu'elle est sérieusement malade. Lorsque nous avions les réunions chez frère Wright ici, avant que je quitte pour l'outre-mer, la fille était là-bas et j'ai dit à frère Wright, après qu'elle soit partie, quelque chose dans l'esprit du Seigneur me pressait continuellement d'aller vers Georgie. Et maintenant j'ai su qu'elle est dans la dernière phase d'un cancer du sein. Et elle fut abandonnée pour mourir, et elle était pour s'en aller et accepter sa mort. Et elle a dit qu'elle a entendu dire que j'étais revenu. Et Dieu bénisse son petit cœur. Elle est sortie du lit et elle a dit, elle croit qu'elle va être guérie maintenant. Alors cela est beaucoup de foi, de croire que Dieu va entendre les prières des mortels. Alors j'aime Georgie comme ma sœur, et je veux que vous vous unissiez à moi en prière, afin que Dieu épargne sa vie. S'il veut simplement me dire ce que je dois dire lorsque j'arriverai là. Tant d'autres, Monsieur Wisehart, frère Jim Wisehart, qui avait l'habitude de venir ici, le fils de son frère est là à l'hôpital, il vient d'appeler, il a la maladie de Hodgkin, c'est pire que le cancer, vous savez. Nous avons eu un cas comme cela qui a été guéri, juste ici dans le tabernacle, récemment. Vous souvenez la jeune fille, le docteur lui avait donné 30 jours à vivre, étant une élève d'école secondaire ici. Et sa mère est venue et a donné sa vie à Christ et a été baptisée, et la fille aussi. Et ils ont dit, ne lui dites rien, ne lui faites pas savoir que la mort est sur elle. Et avant cela, descendant à travers la ligne ici ce matin-là, le Saint-Esprit l'a saisie, savait ce qu'elle avait fait, et ainsi de suite. Et elle fut guérie instantanément, au point qu'ils n'en trouvèrent pas une trace de cela. Et cela fait environ 2 à 3 ans. J'ai rencontré la fille il y a environ 1 an. Je pense qu'elle est mariée maintenant et va très bien. Cela ne s'est plus reproduit. Maintenant, Dieu peut guérir la maladie de Hodgkin. Cela ne fait pas de différence. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Alors parlons-lui un petit peu en faveur des malades et pour le déroulement du service. Maintenant, notre bienveillant Père Céleste, comme nous sommes assemblés ici dans ce joli petit endroit, peut-être pas grand-chose à regarder pour les yeux, mais Père, nous nous sentons comme chez nous ici, sachant simplement que tu nous as bénis tant de fois, sentant ce petit endroit comme Jacob ce soir-là, après s'être sauvé de son frère, ayant une vision, voyant les anges de Dieu montant et descendant sur une échelle, il roulait les pierres ensemble et dit, « Ceci est la maison du Seigneur. Père, je prie que tu bénisses ceux qui se sont assemblés ici dans la maison du Seigneur ce soir, à Bethel. Entends nos prières pour ceux qui sont malades. Ce jeune homme possédé d'un démon qui est en visite chez notre frère. Et nous prions pour la petite Georgie, Seigneur. Ô Dieu, ne laisse pas la mort l'engloutir. Tu l'as épargnée il y a 12, 14 années maintenant, et je prie que tu continues. Toi qui pouvais faire sortir la tuberculose d'elle, tu peux chasser le cancer d'elle. Tu es Dieu, et nous t'aimons, Père, et nous demandons cela avec une foi inébranlable. Que là, dans l'hôpital, ce jeune homme, jeune soldat, gisant là, mourant sans espoir, mais Père, c'était dans cette sorte d'heure, lorsque tu as parlé à Paul et dit, « Prends courage, Paul. Parle encore, Seigneur. Je prie que tu épargnes la vie de ce garçon. Accorde-le, fais qu'il ne meure pas, Seigneur, qu'il vive afin que la gloire de Dieu apparaisse dans sa vie. Aide-nous ce soir à présent dans le service. Pardonne-nous nos péchés. Ne connaissant aucune parole à dire, nous remettons toutes choses à toi et demandons que la gloire t'appartienne, car nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. » Maintenant, j'aime tellement parler de celui que nous adorons ici, le Seigneur Jésus. Il est tellement bon envers nous et nous l'aimons tous. Je suis sûr ce soir que ce serait du plus profond de nos cœurs de réaliser qu'il est au milieu de nous, si nous pouvions seulement le voir. Mais il est ici, je vous en assure, que son esprit qui remplit la terre, la mer et le ciel est dans cet auditorium ici avec nous ce soir. Et nos louanges sont acceptables devant lui, et il aime être adoré. Maintenant, pour quelques pensées fondamentales sur la raison pour laquelle nous sommes ici. La maison de Dieu est une maison de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et je pense au temps où nous vivons, et surtout dans ces heures sombres et noires, après avoir voyagé, surveillé toutes les nations, il ne reste plus qu'un seul espoir que je puisse voir, et c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus. Et il est aussi sûr qu'il vienne que lorsqu'il est venu la première fois. Je crois cela de tout mon cœur, avec toute ma vie, car sa parole, comme nous l'avons vue ce matin, doit être accomplie. Ce sont les pensées de Dieu manifestées par sa parole, et ensuite amenées à la réalité. Nous avons eu le sujet ce matin, s'il y a des étrangers. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, la parole était le commencement, mais avant d'être une parole, une parole est une pensée rendue manifestée. Dieu devait le penser avant d'en faire une parole. Ensuite, il prononça la parole, et elle se matérialisa. Maintenant, le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici, par sa parole parlée, elle se matérialisa et elle est devenue le Fils de Dieu. Il est mort comme un innocent pour les coupables, pour nous racheter, pour que nous puissions fraterniser avec Dieu, afin que nous puissions, ayant déjà été éloignés de Dieu, que nous puissions maintenant nous approcher de Dieu par l'offrande du sang du juste Fils de Dieu. Aussi certain que Jésus est venu la première fois comme Rédempteur, il revient une deuxième fois comme Époux. Il revient. Et bien que plusieurs fois nous pensons, eh bien, ça fait très longtemps, et nous avons pensé cela pendant des années. C'est ce qu'ils pensaient avant sa première venue. Ils sont censés penser la même chose à sa seconde venue. Parce que la Bible dit qu'il dirait, il n'y a pas de différence depuis que nos pères se sont endormis. Mais alors, à l'heure où vous n'y penserez pas, cela va arriver. Maintenant, c'est dans notre intérêt en Amérique, comme chrétiens américains, Dieu va réclamer beaucoup de nos mains, parce que nous avons la vraie lumière de l'Évangile. Et nous manquons d'utiliser cela comme nous devrions le faire. Alors ce soir, je veux parler aux chrétiens concernant comment vous pouvez éloigner votre temps de repentance pour vous et comment vous pouvez absolument être marqué au dehors, n'ayant aucune part avec Christ en faisant le mauvais choix. Maintenant, ces choses sont un peu dures, mais cela doit devenir dur parfois pour nous faire apprécier le Seigneur Jésus. Un frère m'a rencontré aujourd'hui comme je sortais, il a dit, frère Branham, des troubles financiers avaient pesé sur son cœur, il a dit, après avoir entendu parler des pauvres gens en Inde et ainsi de suite, il dit, mais par contre, à chaque fois, il dit, j'ai une bonne santé, mais les choses m'abattent toujours. J'ai dit, chaque fils qui vient à Dieu doit être châtillé de Dieu. chacun, nous devons absolument être éprouvés. Le fouet de Dieu étendu sur nous semblerait comme étant innocent. Dieu va prouver que nous sommes fils. Ceux qui ne peuvent supporter le châtiment sont des enfants illégitimes ou pas de véritables fils de Dieu. Mais cet homme ou cette femme qui se tiendra et endurera la correction est tout allant mal, regarde encore en haut et dit « Seigneur, je t'aime, c'est celui-là. C'est il, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Maintenant j'aime cela, pas vous ?» La congrégation dit « Amen, notre éditeur. » Et sachant cela, que la tribulation produit la patience produit l'espérance ne trompe point. Nous y voilà, voyez, les tribulations produisent la patience. Soyez patients, et l'espérance ne trompe point. Et nous avons l'espérance ce soir. Dans toutes nos tribulations, par contre, cela produit. Les tribulations nous rendent patients, attendant la venue du Seigneur. Lorsqu'il sera révélé du ciel la deuxième fois en gloire et en majesté, la mer va redonner ses morts. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui seront changés et rendus à l'image de son glorieux corps à lui, par quoi il est capable de soumettre toutes choses à lui-même. Et que sommes-nous ce soir, sauf si ce n'est d'être des chrétiens heureux, réjouis, attendant ce grand jour de la venue du Seigneur. Jésus, ici, parle encore de la parole. Tantôt, il y avait un aimable frère qui est venu me voir quelques moments. Il est peut-être dans le bâtiment maintenant, je ne le vois pas. Mais il a dit, frère Branham, j'apprécie la parole. C'est cela, la parole. La parole est établie. C'est la chose qui... Vous ne pouvez pas avoir la foi seulement sur quelque chose que quelqu'un dit. Cela doit avoir une fondation. Et quelle autre fondation serait plus grande que la parole de Dieu, alors que les cieux et la terre passeront, mais sa parole est tout aussi infinie que l'éternité l'est. Cela va continuer encore et encore et encore pour toujours. Elle demeure la même. Remarquez, Jésus, alors que nous devons nous hâter rapidement vers le texte maintenant à cause du service de communion, et c'est notre part. Chaque homme maintenant est femme, garçon ou fille qui invoque le nom de Jésus. Mettez en règle vos cœurs maintenant pour la préparation du souper du Seigneur. Oh, c'est une chose merveilleuse. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, si vous, celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui ne mange pas n'a aucune part avec moi. Et celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. Quel temps! Maintenant, préparons-nous pour ce grand et glorieux événement, dans quelques instants, un des plus grands, je crois, que nous avons dans le tabernacle, c'est le soir de la communion. Maintenant, dans les jours anciens du ministère de notre Seigneur ici, il était venu à Capernaum, je pense encore, et il s'est assis dans le temple au sabbat, et le ministre du temple lui a donné le rouleau à lire. Avez-vous remarqué? Nous avons quelques-unes de ces coutumes. Jésus, lui, lisait les Écritures et ensuite basait son enseignement sur l'Écriture. C'était parfois contraire à ce que les Juifs pensaient que c'était, mais alors qui pouvait l'accuser? Il était le Seigneur de gloire. Et il a lu dans cela où Ésaïe disait « Il m'a oint pour prêcher l'année de grâce du Seigneur ». Et ensuite, lorsqu'il fit cela, il a fermé, roulé le rouleau, l'a déposé, il s'est tourné vers les gens et il a dit « Aujourd'hui, cette parole a été accomplie devant vous. » Maintenant, Ésaïe, bien des années auparavant, probablement entre 500 à 800 années avant ceci, avait prophétisé sous l'inspiration que Christ, quand il viendrait, il serait oint pour prêcher l'année de grâce du Seigneur. Alors cela devait venir exactement de cette manière, car Dieu, à travers son prophète, a prononcé sa parole, et sa parole doit s'accomplir. Comme nous l'avons eu ce matin sur Ésaïe, que le peuple, bien que Jésus avait fait de nombreuses et puissantes œuvres devant eux, néanmoins, ils ne pouvaient pas croire, parce que Ésaïe a dit, « Qui a cru à notre rapport? À qui le bras du Seigneur a été révélé ?» Il dit, ils ont des oreilles, mais ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Afin qu'ils ne puissent être convertis. Parce que Ésaïe a dit cela, les gens ne pouvaient pas comprendre les miracles et les choses que Jésus faisait devant eux. Connaissez-vous cette prophétie même? Remarquez, la prophétie se répète elle-même. Saviez-vous que les paroles de Dieu se répètent? Cela a un roulement en cycle. Par exemple, une fois dans les Écritures, j'ai lu là-bas, j'ai essayé de parcourir une lecture marginale en descendant au travers de la Bible, où cela disait, et je, dans Matthieu le chapitre 2, ou le chapitre 1, je crois, disait, où cela a été accompli du Seigneur par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, parlant de Jésus étant appelé à sortir d'Égypte. Cela se référait aussi lorsque Dieu a appelé Israël à sortir, car Israël était son fils. Et l'écriture qu'ils ont, que Matthieu se référait, était l'écriture même où il appela son fils Israël hors de l'Égypte. Il a aussi appelé son fils Jésus hors de l'Égypte. Voyez-vous? Et ces écritures ce soir que nous lisons en ceci sont accomplies à nouveau dans les jours des gentils. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et Dieu fait des miracles et des signes et des prodiges. Et les gens ferment tout simplement leurs yeux à cela, parce que la prophétie avait dit que cela serait de cette manière. Maintenant, Jésus a été prophétisé par Ésaïe pour prêcher l'année de grâce du Seigneur. C'est sur quoi nous voulons traiter ce soir maintenant. À présent, l'année de grâce, et c'est ceci que, durant ce temps, entre tellement de nombreuses années, l'année de grâce est l'année appelée dans les Écritures anciennes l'année du jubilé. Cela vient chaque, je crois que c'était soit tous les 7 années était l'année du jubilé. Et à tous les 7 ans, il laisse reposer la terre. Il ne cultivait pas de fruits dessus, ne plantait aucune récolte. Il laissait leur récolte dans le champ pour reposer à tous les 7 ans. Et tenu, bien aimé, n'avait rien à payer. C'était une loi de Dieu. L'année de liberté, c'est exact. Lorsque le réveil est terminé, vous n'entendez plus parler d'eux. Ils sont sans un nouveau prédicateur. Ce dont ils ont besoin, c'est du Saint-Esprit qui sort parmi les gens et commence à les agiter, ayant faim et soif pour l'amour de la justice. Bénis sont-ils quand ils ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Où que ce soit, cela prend le Saint-Esprit pour le faire. Maintenant, dans ces jours où les sacrificateurs, ils amenaient l'homme là-bas et peut-être labourant dans le champ de maïs, le maître piétinant, le fouettant avec le fouet. Dépêche-toi là, tu dois te dépêcher avec ceci. Mais aussitôt que cette trompette sonnait, cet homme pouvait lancer cette houe par terre et dire, je ne vais plus sarcler avec cela. Et ce surveillant, ce conducteur d'esclaves, il lui était défendu de le toucher de nouveau, car il était libre. Pourquoi? Il avait entendu la bonne nouvelle. Le jubilé avait commencé. L'expiation était faite. Et tous les esclaves pouvaient aller en liberté. Je me souviens moi-même, lorsque j'ai entendu que la bonne nouvelle est arrivée à mon cœur, étant un petit gars pécheur couché sur un lit d'hôpital, le docteur a dit, il ne te reste que 3 minutes à vivre. J'ai entendu un bruit du ciel qui m'a dit que l'année du jubilé était commencée. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Je me suis libéré de tous les fers du péché et j'ai dit au diable, tu ne peux plus me faire de mal parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et tu ne peux plus me fouetter. Mais depuis ce temps, il m'a bluffé plusieurs fois, mais il n'a plus jamais été capable de me toucher depuis, car il n'est qu'un bluffeur. Je peux entendre son fouet craquer, sauter, ainsi de suite, mais ça ne fait rien, parce qu'il ne peut pas m'attraper, parce que j'appartiens au Seigneur maintenant. C'est exact. Maintenant, nous remarquons ce gars-là, après qu'il a été libre de partir, il doit retourner à sa maison, retourner vers ses bien-aimés, retourner vers sa femme et ses enfants. Il était libre. Il n'avait plus besoin d'être un esclave. Mais voici la tragédie. Si cet homme ne désirait pas retourner, et s'il voulait demeurer là, alors ce maître s'avançait vers lui et disait, « Désires-tu encore être mon esclave ?» Oui. Alors il l'emmenait là-bas au temple, le disait devant les gens comme un témoignage public, plaçait son oreille contre le poteau et prenait une haleine et le marquait dans l'oreille. Ensuite, il ne pouvait plus être libre. Il devait être un serviteur aussi longtemps qu'il vivrait. Il devait continuer de servir le conducteur d'esclaves aussi longtemps qu'il vivrait. S'il rejetait volontairement son appel et son occasion d'être libre. Maintenant, établissez-vous juste un moment. Depuis les dernières 40 années aux États-Unis d'Amérique, ce fut continuellement un rugissement du Saint-Esprit qui va de l'avant, œuvrant parmi les hommes et les individus, donnant des signes et prodiges et toutes sortes de miracles. Des gens qui ont été élevés de prostituées, de gens illégitimes et ainsi de suite, et ce sont devenus des gentilshommes et des chrétiens. Il y en a parmi eux qui étaient aveugles et ils ont reçu leur vue. Des sourds ont entendu le grand temps du jubilé pour les malades et les affligés, ceux qui avaient été liés par le diable. À tous égards, qu'il ait été malade ou qu'il ait été aveugle, qu'il ait été infirme, il y a eu des milliers de miracles qui ont œuvré parmi les gens. Il y a eu un réveil continuellement dans les églises pendant les dernières 40 années du baptême du Saint-Esprit. Et on en arrive à un moment en tant que nation, et dans l'ensemble, et en tant qu'individu, et en tant que groupe d'église, nous avons rejeté cela. Nous nous sommes éloignés de cela. Maintenant, la mauvaise partie de cela est, ami, si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, alors vous avez traversé la ligne de séparation. Vous en arrivez à un endroit où il n'y a plus de repentance pour vous, et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres où vous ne verrez jamais plus le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais plus l'espoir de vie, et vous serez marqués au dehors pour de bon et pour toujours. Quel avertissement solennel! Oh, j'espère que le Saint-Esprit enfonce cela dans votre cœur. Vous qui vous êtes placé sous la frontière, vous qui avez pensé à plusieurs reprises, j'aimerais être un chrétien totalement abandonné si je pouvais simplement me décider de le faire. Oh mon frère, ma sœur, réalisez-vous que ceci pourrait être la dernière opportunité que vous avez de devenir cela? Ce peut être le dernier soir où vous avez l'occasion de devenir un chrétien croyant. Cela peut être le cas à partir de ce soir, que vous avez rejeté le message de Dieu pour la dernière fois. Alors, vous serez aux yeux de Dieu marqués dans l'apostasie. Il n'y aura que deux catégories de gens les derniers jours. Tous les deux vont porter une marque. La marque de Dieu est le baptême du Saint-Esprit sans l'ombre d'un doute. J'ai prêché cela il n'y a pas longtemps, juste ici. Avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, je l'ai prouvé que le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas scellés, mais le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Et ensuite, que tous ceux qui ne furent pas scellés par le Saint-Esprit ont pris la marque de la bête. Et la marque de la bête est une marque d'apostasie qui est rejeter le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? La congrégation dit Amen, notre éditeur. Alors, l'année du jubilé, où la sonnerie retentit, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et si vous le refusez délibérément, volontairement, Dieu n'a plus ou n'est plus sous l'obligation de vous parler à nouveau jamais. Alors vous serez marqués au dehors. Tous les vieux types de l'Ancien Testament, les types seulement et les ombres sont des types du nouveau. Et de rejeter Christ et de le laisser tomber lorsqu'il a frappé à votre porte, vous êtes sur la ligne de danger de vous faire poinçonner à travers l'oreille. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et Dieu va mettre un bandeau sur vos oreilles de façon que vous ne pourrez plus jamais comprendre. Et vous ne ferez rien de plus que critiquer l'Évangile aussi longtemps que vous vivrez. Et vous mourrez et serez perdus à jamais. Quel temps pendant que c'est le temps du jubilé, pendant que les portes sont ouvertes, avez-vous réalisé que ce même baptême du Saint-Esprit, Frère Branham cogne sur la chair à plusieurs reprises, de l'éditeur. J'ai étudié l'histoire pendant les 4, 5, 6 dernières années sur le Saint-Esprit, sachant que ce temps qui vient vers moi arrivait, que je mettrais de côté les services de guérison comme étant les premiers pendant un certain temps, et je prêcherais l'Évangile. C'est vrai, la première chose que je devais faire. Les gens disent, pourquoi ne faites-vous pas ceci? Pourquoi faites-vous cela? La première chose que je devais faire avec ce don divin était de gagner les cœurs des gens. Si je n'ai pas leur cœur, ils n'écouteront pas. Maintenant, Dieu l'a confirmé, et maintenant, ils me croient. Ils ont vu que les choses qui avaient été dites se sont accomplies mot par mot. Ils ont vu la puissance de Dieu agir et faire exactement. Maintenant, ce que vous dites, ils le croiront. Maintenant, la première chose que je devais découvrir était ce dont je parlais, car Dieu me tiendra responsable de cela au jour du jugement. C'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est tombé pour la première fois depuis la Pentecôte en Russie il y a 100 ans. C'est exact. C'est dans l'histoire. Et ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Et il œuvra à travers des signes et des prodiges il y a 100 ans. Et ils l'ont rejeté en tant que nation. Et ils l'ont rejeté. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils se sont livrés maintenant à l'anti-Dieu, l'anti-religieux, et sont devenus des communistes, froids au cœur dur. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, il va vous livrer à un esprit qui va vous condamner. Vous serez tournés dans une pensée réprouvée, à croire un mensonge, être condamné par cela. C'est là que se tient la Russie ce soir. Condamnée aux yeux de Dieu, parce qu'elle a manqué de recevoir le message du jubilé, du baptême du Saint-Esprit. Frère Branham frappe sur la chair 5 fois nos 2 éditeurs. Ils furent livrés à une pensée réprouvée. Ils crurent un mensonge et ils furent condamnés par cela aux yeux de Dieu. Le prochain lieu où il est tombé fut en Turquie, et les Turcs l'ont rejeté, et crucifié, laissé tomber dans des citernes, ainsi de suite, avec des épées, les égorgeant comme ceci. Ces gens arméniens, et ainsi de suite, on les a tués par centaines. Et regardez ce qu'est la Turquie ce soir, dépassée. Maintenant, mon frère, l'Amérique a eu 40 années de prédication apostolique à l'ancienne mode, l'année du jubilé. Et s'ils ne le reçoivent pas en tant que nation, et j'ai bien peur qu'ils ne le feront pas, alors ils seront scellés au dehors, dans les ténèbres, sous l'apostasie. Toutes nos dénominations, elles sont correctes, mes frères, Dieu ne regarde pas aux dénominations, il regarde aux individus. Le christianisme n'est pas une dénomination, le christianisme est une vie qu'un individu vit. Amen. Un jour, ainsi dit le Saint-Esprit de la parole de Dieu, l'Amérique rejettera complètement Dieu et elle recevra la marque de la bête selon l'Apocalypse chapitre 13. Frère Branham frappe sur le pupitre 3 fois à nos éditeurs. Et nous nous avançons vers cela. Dieu ne peut pas laisser aucune nation. Dieu ne fait pas exception de nation. Il ne fait pas exception de personne. Il désire quiconque veut. Et si une nation fleurirait, ferait tout cela et prendrait position, cet empire durerait à toujours. Mais chaque empire du monde sera brisé à la venue de ce rocher taillé de la montagne sans main qui va briser tous les royaumes de ce monde en pièces. Et Christ va gouverner et régner et son règne n'aura pas de fin. Son nom sera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, et le gouvernement sera sur ses épaules et son royaume n'aura pas de fin. C'est le royaume de Dieu qui viendra avec la puissance et la démonstration, mais tout le reste du monde sera détruit et taillé en morceaux. Ils vont le rejeter. Les nations le rejettent, les églises le rejettent, les individus le rejettent. Afin que Dieu puisse juger les nations, qu'il puisse juger les églises, qu'il puisse juger les individus. Car un homme qui vient à la vérité et manque de marcher dans la vérité, alors il a, selon l'Écriture, il a blasphémé ou rejeter le Saint-Esprit de Dieu, et il est au-delà du jour de rédemption. Amis, lorsque vous marchez par ici, les choses que vous achetez, nous portons de bons vêtements, les meilleurs vêtements. Les gens les mieux habillés au monde sont les Américains. Les gens les mieux nourris au monde sont les Américains. Ils conduisent les meilleures automobiles au monde. Ils ont le plus d'argent que n'importe qui dans le monde. C'est vrai. Nous avons le meilleur de tout dans le monde. Nous avons quelques-unes des meilleures églises au monde. Nous avons certains des meilleurs gens au monde. Et malgré tout, dans tout cela, une nation tout entière se détourne graduellement de Dieu. Parce que nous avons placé cela sur des individus, nous avons placé cela sur des dénominations, nous avons placé cela sur des nations. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à un homme, j'ai dit, êtes-vous chrétien? Il a dit, mais je vais vous faire comprendre que je suis américain, j'appartiens à une nation chrétienne. Eh bien, cela ne veut absolument rien dire. Une fille, je lui ai dit, êtes-vous une chrétienne? Elle a dit, je vous montrerai, jeune homme, que je brûle un cierge tous les soirs. Quelle différence la peut-il faire combien de cierges vous brûlez? Quelle différence la peut-il faire que vous demeuriez dans cette nation? Quelle différence la fait-il à quelle église vous appartenez? À moins qu'un homme ne naisse de nouveau de l'Esprit de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu. C'était le sujet d'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, vous ne savez pas combien je vous aime. Vous ne réalisez pas que lorsque je suis, que je n'essaye pas de vous chicaner juste à cause du fait que je me tiens à la chair. Profitez de vous. Mais ce que je vous dis ce soir, soyez avertis par l'Évangile. Fuyez vers Christ. Mettez toutes choses de côté. N'attendez pas Mademoiselle Jones. N'attendez pas que cela commence dans l'Église. Commencez-le à l'intérieur de vous, tout de suite. Car le temps viendra peut-être où Dieu vous poinçonnera pour être un esclave le reste de votre vie à un péché qui vous a lié depuis si longtemps, peu importe le prix. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il dit, « Mais frère Branham, cette personne était bien sincère, ce que la personne vivait, vivant dans le péché. » Ou il dit, « Je suis sincère, je crois au Seigneur Jésus-Christ. » Et j'ai dit, « Si vous êtes sincère, alors prouvez que vous êtes sincère. Abandonnez le péché dans lequel vous vivez. » Oh, dit-il, vous voyez, c'est tellement tortillé. J'ai dit, je pensais que vous étiez sincère. Il dit, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. La chose la plus vitale que vous puissiez faire, c'est de venir à Jésus-Christ, peu importe ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qui est plus important que naître de nouveau? Chacun de vous savait qu'un jour, vous serez un crâne et un paquet d'eau déposé sous cette argile autour de vous. Aussi sûr que vous êtes assis ici ce soir, vous êtes en route vers cela. C'est exact. Combien sincère devriez-vous être alors? Comprenez-vous ce que je veux dire? Peut-être allez-vous commencer dans une heure d'ici. À ce temps-ci, l'an prochain, il n'y aura peut-être pas un morceau de chair sur vos os dans les 12 prochains mois. Il n'y aura peut-être pas la moindre trace de vie dans votre corps dans les 25 minutes qui suivent. Et ensuite, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin des âges, vous ne serez plus. L'état dans lequel vous partez, c'est l'état dans lequel vous serez à jamais. Alors si vous êtes tiède, frère, c'est la place la plus dangereuse de se tenir. La condition de la tiédeur. Jésus a dit, soyez chaud ou froid. Soyez soit pour moi, de tout votre cœur, ou contre moi. Si vous vivez juste assez une bonne vie, ça ne comptera jamais. Vos guenilles de justice propre ne pourront jamais résister au jour du jugement. C'est exact. Vous dites, eh bien, j'appartiens à l'Église. Cela n'a rien à voir avec cela. Je crois que vous devriez appartenir à une Église. C'est très bien, mais cela n'a rien à voir avec le salut. Tout comme je l'ai mentionné ce matin, l'homme essayait de trouver Jésus-Christ. Il était déjà dans son cœur. Ces choses qu'il avait faites, criant, parlant en langue, ainsi de suite, ces choses sont très bien. Mais ce sont les attributs de Christ étant là-dessus d'abord, voyez. Vous devez recevoir Christ ici en premier, ensuite ces choses vont se produire. Mais vous pouvez faire cela sans avoir Christ, et alors dans quelle sorte de posture serez-vous? Maintenant j'ai vu des païens crier, c'est exact. J'ai vu des gens aller alentour et produire des choses tellement drôles à voir, jusqu'à ce que vous voudriez, que vous puissiez croire n'importe quoi. sortir une corde d'un sac comme cela, faire une sorte de tour par-dessus cela, et la corde se tenir toute droite dans les airs. Prendre un gros cobra, et celui-ci pouvait mordre, qu'il ait des crocs ou non, lancer un linge là-bas, surveiller ses crocs qui pendent dans les linges, ils vont là-bas, lui joue un peu de musique, chante, et le roule autour de son cou, et ce cobra le regarde tout simplement, agissant comme s'il allait mordre, et il se retient. N'allez pas vous approcher de lui, il va vous tuer. Et je les ai vus se tenir là-bas, et marcher à travers des lits de feu, lorsque les charbons étaient brûlants. Ils enlevaient ce qu'ils avaient sur eux et marchaient là-bas à travers ces charbons de feu sans que cela leur fasse quoi que ce soit, aucun mal du tout. Ils vont dans un profond fossé tout battu, plein de vipres, et se tenant droit comme cela, ils courent, font un grand saut en cela, se couchent, se roulent à plusieurs reprises et se relèvent sans aucune coupure. Et ils ressortent en sautant. C'est de la foi. Mes frères, ce n'est pas le salut. Non, monsieur. Oh, tellement de manières rusées que le diable a pour séduire les gens. Le salut est une affaire individuelle avec le Dieu Tout-Puissant à travers le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce dont nous avons besoin ce soir, amis, est une réunion à l'ancienne mode, comme nous avions l'habitude d'en avoir il y a quelques années, pour balayer toute la nation, où les gens retournaient à la maison, mettaient leur maison en ordre. Ils faisaient sortir toutes les choses mauvaises de leur maison. Ils arrêtaient toute leur stupidité autour de la maison. Chacun et chaque maison, ils se mettaient tout droit dans la ligne. Et ils arrêtaient leur mesquinerie. Ils arrêtaient de tricher. Ils arrêtaient de mentir. Ils vivaient honnêtement et sobrement les uns avec les autres. Ils vivaient comme des chrétiens doivent le faire. C'est la sorte de religion. Et aujourd'hui, cette même sorte de religion que nous avons, c'est séparer jusqu'à ce qu'elle devienne tellement modelée au point que c'est un spectacle hollywoodien quasiment. Maintenant, vous savez que c'est la vérité. Nous allons dans un endroit, un orchestre de musique se trouve là, ils jouent et ils s'entretiennent, jouent la musique soi-disant, prétendant être chrétiens. Mais aller vers eux et aller à l'encontre de l'un d'entre eux une fois et surveiller ce que vous allez recevoir, voyez. La chrétienté, c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la patience. Est-ce vrai? Christ, lorsqu'il a été injurié, il n'a pas rendu l'injure. Est-ce vrai? La congrégation dit Amen, de l'éditeur. Le christianisme est la vie qu'un homme vit. C'est une expérience personnelle, pas, mais quelques-uns disent. Oh, ce gars, je sais que ce gars fait ceci, je sais qu'il peut, il peut prier pour les malades et ils seront guéris. Ça ne veut pas dire qu'il est un chrétien. La foi fera n'importe quoi. Si vous pouviez seulement parvenir à la place de chrétien. Notre petit groupe ici au tabernacle, vous tous, si vous pouviez seulement voir comment ces sorcières et ces magiciens sont capables de faire des miracles, certainement ils le font. Et ils ont toutes les démonstrations que produit le christianisme. Mais ils ne peuvent pas être chrétiens. Surveillez leur vie. Observez ce qu'ils font. Ces gens là-bas prennent même d'autres femmes pour vivre avec elles, l'adultère, comme une religion. Et ces mêmes gens font des signes et des prodiges. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a seulement une chose que je n'ai jamais vue un sorcier ou d'autres faire. Ils peuvent faire des miracles, comme faire étirer cette corde toute droite debout. Ils peuvent courir à travers le feu, ensorceler le feu. Et ils peuvent faire des choses comme cela. Mais ils ne peuvent pas guérir les gens. C'est étrange. Ils peuvent mettre des malédictions sur les gens. Et des maladies vont venir sur les gens. Mais ils ne peuvent pas enlever la malédiction et les guérir. C'était de cette manière à travers les temps bibliques. Quand Jeunesse et Jambres ont résisté à Moïse, ils pouvaient amener des plaies et des furongues, mais ils ne pouvaient pas les enlever. Ils pouvaient amener des mouches et des poux, mais ils ne pouvaient pas enlever cela. Car le Seigneur est celui qui guérit les malades. Ils peuvent danser dans l'esprit, je les ai vus à maintes reprises. Ils peuvent avoir toutes sortes de manœuvres, mais ils ne peuvent pas guérir les malades ou ne peuvent pas vivre une vie chrétienne. C'est une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Alors cela devient une affaire individuelle, avec chaque homme et chaque femme, et de voir toutes ces choses fausses. Et la Bible dit, que les deux esprits seraient si proches dans les derniers jours que cela séduirait les véritables élus si c'était possible. C'est exact. De faux Christ, de faux esprits qui s'élèvent, produisant des signes et en séduisant plusieurs. C'est exact. Mais mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Oh, dans quel jour vivons-nous? Et le temps du jubilé est presque terminé. Écoutez, amis, ce soir, si vous êtes ici sans Christ et vous ne le connaissez pas, vraiment sûr dans votre cœur, positif en cela, sans l'ombre d'un doute que Christ est dans votre cœur, très bien. Mais si vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai été brisé et j'ai pleuré une fois quand j'étais à l'autel, ne prenez pas cela. Vous dites, eh bien, je vais vous dire, frère Branham, j'ai eu un bon temps une fois, j'ai dansé dans l'esprit un peu partout. Ne prenez pas cela. Voyez, vous dites, eh bien, j'ai prié pour un homme, il fut guéri. Ne prenez pas cela. La chose que vous devez prendre, c'est de savoir que lorsque Christ est dans votre cœur, lorsque les grandes épreuves et les troubles viennent, il est aussi doux pour vous. Vous marchez de la même manière. Si tout va mal et tout le monde est contre vous et tout va de cette manière, vous êtes encore doux et gracieux. C'est très bien. Alors allez de l'avant et vous, votre esprit, rendant témoignage avec son esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Si cela ne fait pas écho dans votre âme ce soir, amis, ne soyons pas marqués hors du royaume de Dieu. Entrons dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'un homme est une fois marqué dans le royaume de Dieu, il est scellé jusqu'à la fin de sa route. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Maintenant, nous avons une ancienne coutume de l'appel à l'autel, amenant les gens à l'autel. Que Dieu soit loué pour cela. C'est une bonne chose à l'ancienne mode que l'Église méthodiste a commencé il y a bien des années. Et cela, c'était bon et c'est encore bon aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessaire que vous veniez à l'autel pour devenir un chrétien. Ils n'avaient pas cela durant les temps bibliques. Ils les considéraient tout simplement comme des croyants. Ils n'ont jamais fait un appel à l'autel dans tout le temps, dans l'âge apostolique. Il n'y avait pas d'appel à l'autel. Ils disaient, tous ceux qui crurent furent baptisés. Est-ce vrai? Ils devinrent des croyants. Lorsque vous êtes pleinement convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est dans votre cœur, maintenant, pas dans votre imagination, mais dans notre cœur, que quelque chose fait écho là en bas et dit, maintenant, je suis sauvé, c'est tout ce dont vous avez besoin, juste là, frère. Confessez-le et laissez sortir vos paroles. Et ensuite, observez votre vie à partir de ce moment. Pas plus qu'un épi de blé peut produire des chardons, pas plus cet homme peut-il produire de mauvais fruits. Il devra produire de bons fruits. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne passera pas en jugement, en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est parce que vous avez cru, pas imaginé, mais vous avez cru cela. Cela est devenu une pensée dans votre cœur. La chose suivante, vous l'avez exprimée comme une confession. Celui qui me confessera devant les hommes, lui je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Ensuite, quelque chose s'ancre, c'est la réalité. Mais ce qui nous a été enseigné, amis, nous a fait sortir en dehors de la ligne. Nous avons été enseignés, les méthodistes enseignés au commencement en disant, frère, quand ils en arrivent au point où ils peuvent crier, ils ont la sanctification. Ils prétendaient qu'ils l'avaient. Mais on a découvert que ça ne marchait pas très bien. C'est vrai. Lorsque les Nazaréens pouvaient crier, lever leurs mains en haut, courir de haut en bas dans l'allée, ils disaient, c'est cela. Et plusieurs d'entre eux criaient, couraient de haut en bas dans l'allée, sortaient et vivaient n'importe quelle sorte de vie. Alors ils savaient que ce n'était pas cela. Ensuite vint la Pentecôte. Lorsque Dieu commença à restaurer les dons à l'Église. Ils ont commencé à parler en langue. Ils dirent, c'est cela, nous l'avons maintenant, nous sommes convaincus de cela. Mais ils ont découvert qu'ils ne l'avaient pas. C'est exact. Des gens parlent en langue et vivent n'importe quelle sorte de vie. Frères, quoi que cela soit, soyez certains. Maintenant, crier, c'est très bien. Je crois à la sanctification.
Oui, monsieur.
Pas la mienne, mais la sienne. Voyez-vous, c'est exact. Pas ma sainteté, mais la sienne. Quand lui, le Saint-Esprit, place sa sainteté à l'intérieur, c'est sa sainteté, pas la mienne. Je suis un pécheur, mais il est le Seigneur. Maintenant, je crois à la sanctification. Je crois dans l'écrit. Je crois qu'un homme né de nouveau va avoir une sorte de démonstration quelconque. C'est vrai. Je crois au parler en langue. Je crois à l'interprétation des langues. Je crois à la guérison des malades. Je crois en la prophétie. Je crois dans l'opération des miracles. Mais toutes ces choses sont quelque chose qui ne font que suivre après que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons essayé de dire, lorsqu'il crie, il l'a, lorsqu'il prophétise, il l'a, mais ce n'est pas ce qu'il a. De prendre une pomme sur un arbre ne veut pas dire que vous avez l'arbre. Voyez, vous avez un attribut de l'arbre. Et c'est ce qui a causé la confusion. Mais quand Jésus-Christ est assaisonné une fois dans votre cœur, toutes ces autres choses se produisent automatiquement. Présentement, c'est l'hiver qui vient. Tous les arbres vont perdre leurs feuilles, sauf le chêne, il garde ses feuilles. Lorsque le printemps arrive, ce sont des vieilles feuilles mortes. Vous n'avez pas besoin de sortir ramasser les vieilles feuilles, afin que les nouvelles puissent apparaître. Laissez tout simplement la nouvelle vie venir, et les vieilles tombent, et les nouvelles poussent. C'est comme cela avec le christianisme. De recevoir Jésus-Christ ne fait pas, j'ai entendu des gens dire, eh bien, gloire à Dieu, autrefois je jurais, je pouvais jurer à en enlever le chapeau de la tête d'un homme. Et j'ai arrêté de jurer, je sais que je suis chrétien. Non, vous ne l'êtes pas par cela. Non, monsieur, autrefois je buvais et j'ai arrêté de boire. C'est une bonne chose, mais c'est la chose morale que vous avez arrêtée. Mais de recevoir Jésus-Christ et de recevoir sa personne dans votre cœur, cela vous fait mourir aux choses du monde. Et Christ vit en vous, voyez ? Vous pourriez absolument cesser de boire et ne pas être un chrétien encore. Vous pourriez garder tous les 10 commandements et ne pas être un chrétien encore. Car si les 10 commandements auraient pu vous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Mais Jésus est mort afin de vous donner la vie éternelle. Et c'est ce que c'est. C'est le Saint-Esprit vivant en vous. Pas en gardant des lois ou en faisant des choses ou quelque chose comme ça, ce sont des œuvres. Vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, vous êtes sauvé par grâce, à travers, par le moyen de la foi. Ensuite, si dans votre cœur, vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous êtes en paix avec lui. Observez votre vie. Je vais vous dire quelle sorte de chrétien j'aime voir. Lorsque vous marchez dans la rue, ils disent, « Maintenant, regarde, tu vois ce gars qui s'en va là-bas ? C'est un chrétien. Je n'appartiens pas à son église, mes frères. » Il est un chrétien, je vous le dis, je l'ai vu marcher dans des endroits difficiles. Voyez-vous cette femme-là? Oui, monsieur, eh bien, elle n'a peut-être pas l'air tellement populaire parmi les femmes, mais elle est une chrétienne. Je vous le dis, elle est une chrétienne. Laissez la ville entière dire, voilà un chrétien. Ils le sauront. La Bible dit que vous êtes scellés. Avez-vous déjà mis un sceau sur quelque chose? Il remonte ça comme ceci, il place un sceau dessus, il... L'étampe, c'est sur les deux côtés. Il vous voit venir et vous voit partir. Est-ce vrai? Vous êtes un chrétien de bord en bord, scellé par l'Esprit de Dieu. Ils savent ce que vous étiez. C'est exact. C'est une étampe, un marquage, un scellement. C'est exactement la vérité. Maintenant, ça c'est lorsque vous êtes scellé dans le royaume de Dieu. Si jamais ce papier vient à être scellé légalement une fois par un notaire public, et que son nom est signé dessus, c'est légal aussi longtemps que c'est un papier, frère. C'est vrai. Est-ce vrai? Si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, pas soi-disant, mais réellement rempli avec l'Esprit de Dieu, il est scellé à l'intérieur jusqu'au jour de sa rédemption. Il va être comme Christ aujourd'hui. Il va être comme Christ demain. Il va être comme Christ le jour suivant. Dans les épreuves, il est comme Christ. Dans les afflictions, il est comme Christ. Dans la famine, il est comme Christ. Dans la joie, il est comme Christ. Partout où vous le voyez, lui ou elle, ils sont comme Christ. Car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas votre esprit. Frères, sœurs, ne jouez pas avec Dieu trop longtemps, car le temps peut venir où le temps du jubilé passera à votre porte. Alors vous serez conduits au poteau du diable, ensuite vous serez percés dans l'oreille, et vous ne pourrez plus jamais entendre le glorieux évangile. Que voulez-vous dire? Vous n'aurez plus besoin de cela. Vous savez ce que c'est que le blasphème du Saint-Esprit? C'est de rejeter cela. C'est exact. Lorsqu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils l'ont appelé Belzébul. Et les œuvres mêmes qu'ils faisaient, ils ont dit, tu le fais par Belzébul. Jésus leur a dit alors ce qu'ils avaient fait. Ils ne le croyaient pas. Et si un homme refuse de croire la vérité, lorsque la vérité lui est présentée, et qu'il refuse de la croire, alors cela finit là, c'est certain. Ainsi, si vous ne connaissez pas le Seigneur ce soir, ou pas plus qu'une petite expérience que vous avez eue, si vous ne connaissez pas le Seigneur, étant le gracieux, doux, aimable Sauveur, ne voulez-vous pas ce soir, tout de suite, vous n'avez pas besoin de venir à l'autel, vous pouvez si vous voulez, mais si vous ne le connaissez pas, écoutez-moi juste une minute. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, étant votre frère, si vous croyez que je suis son serviteur, maintenant, je rends cela un peu personnel, mais je fais cela dans un but. Si vous croyez que j'ai été en liaison avec le Dieu Tout-Puissant, si vous croyez cela, écoutez-moi maintenant. Ne laissez pas le soleil se lever sur vous tant que quelque chose ne soit pas ancré dans votre cœur, que vous êtes un chrétien, que vous êtes en paix avec votre ennemi, vous êtes en paix avec Dieu. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5:1. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez de l'inimitié contre un voisin, contre quelqu'un d'autre qui vous a fait du tort, et cette personne vous a fait du tort, si vous, dans votre cœur, ne pouvez pas aimer cette personne, ne prenez pas cette expérience. Vous devez aimer ceux qui ne vous aiment pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les pécheurs font la même chose. Mais vous devez maintenant pas juste agir comme dans un acte religieux, mais vous devez le faire de tout votre cœur. Alors je vous ai demandé de prier pour moi l'autre jour, ou ce matin pour moi. J'en étais rendu au point que je critiquais les gens, la manière dont les femmes s'habillaient, des choses comme cela. Je ne veux pas être comme cela. C'est faux. Maintenant je le confesse juste ici, que je suis dans l'erreur. Et j'ai vu des prédicateurs qui sortent et font des choses qui ne sont pas bibliques. Et j'ai dit, maintenant c'est faux, mais qui suis-je pour les juger? Dieu est leur juge. Que Dieu enlève cet esprit de moi. Laisse-moi être comme le Seigneur Jésus. Cela, et ceci est vrai, mon frère, écoutez, un jour, vous n'aurez plus l'occasion d'être dans l'église à nouveau. Lorsque je pars et que je reviens, ma femme me dit, tu sais, tel et tel, oui, sais-tu qu'ils sont morts l'autre jour? Ici, un vieil ami à moi avec lequel je jouais quand j'étais garçon, Will Edgar King, il est mon copain, j'ai grandi avec lui depuis mon enfance. Nous avions été ensemble, nous dormions ensemble, nous avons vécu, péché ensemble étant petit garçon et en grandissant. Pendant que j'étais là outre-mer, un jeune homme découplé qui avait été guéri une fois par guérison divine, il marchait tout simplement et est mort instantanément d'une crise cardiaque. Qui aurait pu penser, Will Edgar King, environ 8 ou 10 ans plus jeune que moi, un jeune homme avec une bonne stature, environ 180 livres, qui marchait, le portrait même de la santé, un jeune homme avec une brave petite femme, 3 ou 4 petits-enfants, juste tombé comme cela. Il était l'acheteur principal pour tous les supermarchés du Sud. Une bonne position, une jolie maison, une belle famille. Branham claque ses doigts une fois, de l'éditeur. Mais il fut emporté comme cela. Frère, Dieu, son âme est dans les mains d'un Dieu juste qui va lui donner la bonne sorte de jugement. Nous sommes assis ici ce soir. Dieu seul sait où nous serons au matin. Maintenant, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, pendant que nous prions, juste dans votre cœur maintenant, pas à moi, pas aux gens, mais dans votre cœur, devant Dieu, dites, Seigneur Jésus, je faisais juste jouer, mais ce soir, je sens dans mon cœur que ceci est le temps où je veux t'accepter pleinement comme mon Sauveur. Et à partir de maintenant, par ta grâce, je regarderai directement au calvaire et marcherai dans une vie chrétienne droitement. Prions. Père céleste, lequel nous aimons et en qui nous prenons confiance, sachant ceci, en tant que ministre, sacrificateur, pourvoyant aux choses spirituelles pour le peuple, me tenant ici ce soir entre les vivants et les morts, sachant ceci qu'un jour, sans l'ombre d'un doute, je devrai répondre pour chaque parole au trône du jugement de Christ. Voyons des hommes et des femmes ici, des braves gens, voulant faire n'importe quoi que je leur demande de faire, Père. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Voyons quelqu'un en besoin et de bon cœur. Maintenant, Seigneur, c'est difficile en tant qu'être humain avec eux d'apporter ces paroles coupantes qu'ils doivent recevoir Christ ou être rejetés. Mais Père, cela nous amène à savoir que j'ai un amour pur et divin pour eux, pas quelque chose qui leur ferait du mal, mais quelque chose qui les aime éternellement. Et je leur ai offert ton Fils, le Seigneur Jésus, qui se tiendra à leur place au jour du jugement. Père, je prie que tu reçoives chacun. Je ne leur ai même pas demandé de lever leurs mains. Je ne me sentais pas de faire cela, mais je sentais qu'il y en avait plusieurs ici, Père, qui veulent marcher plus près de toi. Ils veulent s'abandonner eux-mêmes, et ils le font en ce moment. Par la foi, je le crois, Seigneur, qu'ils mettent maintenant de côté chaque petit fardeau, et disant, à partir de ce soir, voyant que la vie est si fragile, de toute façon il n'y a pas grand-chose en cela, je veux dépenser tout ce que j'ai pour le Seigneur Jésus. Et Dieu accorde qu'à partir de ce soir, ils marchent de cette manière. Ensuite, Père, que ces mêmes gens marchent ici et prennent la communion ce soir, le corps brisé du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous, s'ils font cela avec un cœur sincère, tu as dit que tu les ressusciterais au dernier jour et leur donnerais la vie éternelle. Accorde ces choses, bienveillant Père, car nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je ne vais pas vous demander combien se sont consacrés, mais je crois que plusieurs d'entre vous l'avaient fait, et moi-même, je l'ai fait dans mon cœur. Seigneur, enlève cet esprit de critique de moi. Maintenant, je ne critique pas les gens, droit en face dans leur visage, mais dans mon cœur, je le fais. Je vois une femme descendre dans la rue, surtout cela, et elle n'est pas habillée convenablement. Je me dis, n'est-ce pas terrible? Dans mon cœur, je ne le dis à personne d'autre. Mais après tout, c'est son affaire. Elle a un libre arbitre. Elle n'a pas le droit de faire cela. Christ a racheté sa vie, mais peut-être qu'elle ne le comprend pas. Alors ce n'est pas à moi de critiquer. Que Dieu fasse cela. Je suis dans la chair. Je prêcherai l'évangile du mieux que je le peux. Et le reste, je le donne à Dieu. Que Dieu vous bénisse, amis. Maintenant, nous allons avoir un service de communion dans quelques minutes. Combien croit la communion? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Merci. C'est ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, disant de prendre les parties brisées de son corps et de le faire jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau. Et si vous croyez que ceci est la vérité et que vous aimeriez avoir ce petit temps de communion avec nous autour de la parole de Dieu ici, nous serions heureux si vous restiez avec nous et passez ce temps. Sinon, nous allons congédier juste pour quelques moments. Nous aimerions que vous restiez avec le reste d'entre eux de toute manière, afin que vous puissiez voir la manière que nous prenons la communion. Ceci n'est pas seulement... Ceci est pour la guérison divine aussi. Saviez-vous cela? Quand Israël mangeait le tip, l'agneau, la Pâque, ils ont traversé le désert pendant 40 ans et sont sortis sans qu'une seule personne faible soit au milieu d'eux. La communion, un signe pour les croyants. Maintenant, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, en commençant avec le verset 23, je vais lire ceci afin de faire bénéficier l'Église de la lecture. Paul parle. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit un pain. et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » N'est-ce pas merveilleux d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que ceci veut dire, frère Branham? Cela veut dire ceci. Si vous venez, prenez la communion et sortez et vivez une différente sorte de vie que ce qu'un chrétien doit vivre, vous apportez de l'opprobre et de la disgrâce à la cause du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Si vous êtes un chrétien, venez. Si vous ne l'êtes pas, ne le faites pas. Observez. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Très bien, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Lorsque nous mangeons ce pain, et que nous buvons cette coupe, examinons-nous et disons, maintenant, est-ce que je marche dignement? Eh bien, je ne marche pas dignement, non. Mais Christ en moi me fait marcher dignement. Je l'aime, je témoigne de lui. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais dans ce monde. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le serez jamais. Mais mon amour pour lui, et il me laisse vivre pour lui, et j'aime à le faire et témoigner de lui. Je ne sors pas pour fêter et faire toutes sortes de choses mauvaises qui amènent de l'opprobre à son nom. Mais si je découvre que je fais quelque chose, alors je suis châtié du Seigneur. Pourquoi Dieu fait-il ceci? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Maintenant, il y a une grande différence entre le croyant et l'incroyant. Dieu fait la différence. Rappelez-vous les croyants en Égypte, ils étaient tous à l'intérieur. Sous quoi? Sous le sang. L'agneau fut immolé. Et c'est du sang avec de l'hysope qui était aspergé sur la porte. Regardez où cela a été mis, sur le linteau de la porte. C'est la porte par laquelle vous devez passer. Le linteau de la porte est sur le poteau de la porte. Voyez-vous ce que c'est? La croix. Des siècles avant que l'agneau de Dieu vienne et soit immolé. Mais le type de l'agneau, il était mis sur le linteau et sur la porte, et chaque Israélite venant sous ce sang, il lui était défendu de ressortir à nouveau. Voilà, il lui était défendu de sortir, ils étaient sous le sang. Ils ne pouvaient pas partir tant que les ordres n'étaient pas venus de marcher, les ordres d'aller de l'avant, un type de Christ. Car par un seul sacrifice, une seule fois, a-t-il amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, une fois pour toutes? Il n'y a plus de retour en arrière, plus de faire ceci, plus de faire cela. Oh, vous allez rétrograder, vous allez faire des choses fausses, mais vous vous repentez et vous revenez, voyez? Mais une fois que Christ sanctifie une âme humaine, en la remplissant du Saint-Esprit, c'est sous une protection pour toujours. Voyez, plus de désir de faire le mal. Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus de conscience ou de désir. C'est la bonne traduction. L'adorateur, une fois purifié, oh, j'aimerais pouvoir enfoncer cela profondément. L'adorateur, le croyant, une fois purifié, n'a plus le désir de pécher à jamais. C'est réglé pour toujours. Car il a amené à la perfection par son sacrifice pour toujours ceux qui sont en Christ Jésus. Le monde devient mort, vous n'en voulez plus, vos affections sont sur les choses d'en haut. Maintenant, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous viviez encore des vies mondaines, alors vous êtes châtié du Seigneur, car vous ne devez pas être condamné avec le monde. C'est pourquoi, lorsque vous vous réunissez ensemble, ainsi mes frères, Lorsque vous vous réunissez pour le souper, attendez-vous les uns les autres. Veillez. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Vous remarquez Paul ici. Ces Corinthiens, ils ne comprenaient pas. Ils montaient là et même s'enivraient à la table du Seigneur. Et ils mangeaient, buvaient, faisaient tout ce qui est faux. Et Paul a dit, lorsque vous vous réunissez ensemble, s'il y a un homme a faim, qu'il mange à la maison. Mais lorsque vous venez ensemble, attendez-vous les uns les autres. En d'autres mots, attendez-vous les uns les autres. Il a dit, maintenant, voici un frère que je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion. Mais ne courez pas là et le poussez en dehors. Ayez de la patience avec lui. Une fois que le service est terminé, et à un certain moment où il allait à sa maison un soir, asseyez-vous, dites, frère, pardonnez-moi si j'ai tort. Mais je vous ai vu là-bas l'autre jour, dans la rue, ivre, ou quoi qu'il ait fait. Vous sortiez avec une femme qui n'était pas votre épouse, vous, et vous prenez la communion. Je vous aime, frère. Mais allons, que vous et moi prions concernant cette chose et mettons cela en ordre, voyez. Attendez-vous les uns les autres. Rendez-vous service l'un à l'autre. Ne soyez pas plus grand que quelqu'un d'autre. Essayez de voir combien petit vous pouvez être. J'ai souvent entendu dire, ne soyez jamais grand à vos propres yeux. Si vous êtes grand, que ce soit aux yeux de Dieu. Soyez petit à vos propres yeux. Chaque homme qui s'humilie lui-même, Dieu l'élèvera. Mais ceux qui s'exaltent eux-mêmes, Dieu les abaissera. Voyez, soyez petits. Voici un homme, disons. Eh bien, il dit, je sais cela. Maintenant, voyez, il est mon frère. J'aimerais être son serviteur, voyez. Soyez serviteurs les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. De telle manière que, oh, et vous allez, nous avions l'habitude de chanter un petit cantique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez à présent. Nous chantions « Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien. La communion de pensée en accord est comme celle de l'au-delà. Lorsque nous nous séparons, cela nous chagrine à l'intérieur, mais nous serons quand même unis de cœur en espérant nous revoir encore. » Lorsque je me suis tenu là, dans les catacombes de San Angelo, j'ai regardé étendu là tout le long, sur 1 mille ou plus sur le sol, des tombes où ils ont enterré les morts. Et juste là, sur le coin, il y avait de toutes petites tombes. C'étaient les enfants. Ils ont placé les enfants dans le coin. Et il y avait une petite église là, où ils devaient se cacher. Je suis allé dans la vieille cathédrale romaine, où ils les brûlaient sur le bûcher, les donnaient à manger aux lions. J'ai marché là-bas, au centre de cet endroit. Je me suis tenu là, j'ai regardé alentour. Je ne l'avais pas encore vu. Toutes les briques tombaient là-dedans aux grands endroits où les lions sortaient. J'ai marché jusqu'à l'endroit où je pensais que la fosse aux lions pouvait être, où les chrétiens mouraient. J'ai élevé mes mains, je me suis tenu là. J'ai dit, « Oh Jésus, je suis une créature tellement indigne de penser que mes frères ont scellé leur témoignage là par la bouche des lions, et ainsi de suite pour la cause de Jésus-Christ. » Je me suis levé debout. J'ai regardé derrière moi. Il y avait quelqu'un qui avait remonté la vieille croix rugueuse se tenant là-bas. J'ai commencé à fredonner dans mon cœur. Là-haut, sur la colline, se tient une vieille croix rugueuse, emblème de souffrance et de honte. Je regarde les hommes à travers les âges, le monde entier trempé du sang des martyrs du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pensé, quelle toute petite chose nous sommes. Pensant faire un petit voyage missionnaire, peut-être avoir enduré un peu de persécution, ou que quelqu'un se rie de nous. Je deviens un ballon de football auquel les gens donnent tellement beaucoup de coups de pied, mais cela ne fait pas de différence. Ils ont donné des coups de pied à des hommes avant moi. Ils faisaient des choses comme cela. Ils appelaient ceci, cela ou l'autre. J'ai un évangile à prêcher de notre Seigneur que j'aime. J'ai un but à atteindre. Et lorsque j'arriverai au bout de la route, je veux venir avec chacun d'entre vous disant ceci, j'ai combattu le bon combat. Quelques-uns de vous ce soir, sans doute, je me tiendrai à la chair lorsque mon visage deviendra pâle, mes lèvres se scelleront et J'ai toujours voulu passer de la chair comme cela, de la maison à la gloire. Un de ces jours, je prêcherai mon dernier sermon, je ferai mon dernier appel à l'autel, je prierai pour la dernière personne malade. Je veux mourir avec une Bible dans ma main, appelant, invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Combattre le bon combat, achever la course. Mes bien-aimés frères et sœurs, quoi qu'il y ait, s'il y a quelque chose dans votre vie contraire à Christ, confessons-le. Venez ici maintenant et prenez le souper du Seigneur, unissant nos cœurs ensemble dans une unité de foi chrétienne pour laisser savoir à notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'aimons avec tout notre cœur. Et faites-le maintenant pendant que nous prions. Et Teddy, si tu veux, je pense qu'ils viennent par section. Est-ce vrai, frère? Frère Neville dit oui, notre éditeur. Maintenant, si les anciens veulent s'avancer maintenant pour nous aider et se tenir ici, et où commencez-vous? De quel côté, frère Neville? Ce côté? Frère Neville répond oui, notre éditeur. Très bien. Ces frères, maintenant, ils ont un système ici. Tout le monde n'aura pas besoin de venir en même temps. Et maintenant, venez, prenez la communion avec nous. Nous serons contents que vous mangiez ce souper avec nous. Frère Branham officie avec le pain et le vin de communion. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Je suis sûr que nous pouvons tous dire ce soir que nous sommes heureux d'être chrétiens. La congrégation dit amen, note de l'éditeur. L'action que vous venez de faire a quasiment 2000 ans avant le départ de notre Seigneur Jésus, il nous a prié de faire ceci et de le faire jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau. Et il nous a donné l'assurance de sa propre parole qui ne peut faillir, ne peut jamais faillir. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Saint Jean chapitre 6. Cela me donne un tel espoir, après avoir vu les fausses religions du monde, l'adoration du soleil, l'adoration des idoles, et toute leur conception d'un être surnaturel. Mais alors, de voir cette parole, combien infaillible elle est, et celui qui a prouvé qu'elle est infaillible, nous a donné cette promesse divine de lui, qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Mais maintenant, pour les étrangers dans nos portes, il y a juste un petit peu plus de ceci que ce que nous venons de faire. Je vais le lire premièrement pour vous, tiré de la Bible, dans Saint Jean, le chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Cela a été une ordonnance ici au tabernacle pendant des années, le temps de 20 années plus d'existence que nous pratiquons le lavement des pieds. Les baptistes ont amené cela avant les pentecôtistes, et les pentecôtistes ont recueilli cela dans leur temps, et cela se continue. Alors ce soir, comme toujours, nous observons cette ordonnance. Nous allons dans une pièce ici appelée la chambre de prière, et les dames vont là-dedans. Et les hommes vont dans une pièce pour dans l'office ici, le bureau des diacres, et nous observons le lavement des pieds. Et vous, les étrangers parmi nous ce soir, pas un étranger, mais un concitoyen du royaume, si vous n'avez jamais fait ceci, soit un homme ou une femme, nous vous demandons et nous vous invitons cordialement à venir et à vous unir à cette communion avec nous. Et si vous n'avez jamais fait cela auparavant, nous serons heureux d'obtenir votre fraternité ce soir pour la première fois avec nous. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas bien disposé pour le faire, que quelque chose vous presse de retourner à la maison tout de suite, ou autre chose, nous voulons dire que nous sommes heureux que vous ayez été avec nous ce soir. Je m'excuse d'avoir brisé mon sermon et ces choses de la manière que je l'ai fait. Je ne suis pas tellement un grand prédicateur pour commencer, et ensuite je suis venu un peu au dépourvu. Cela rend les choses un peu difficiles pour moi. Un peu plus tard, peut-être, le Seigneur m'aidera dans ces sujets. Et peut-être, après mon retour de l'Ouest, j'espère que le Seigneur va me donner un bon repos là-bas, afin que je puisse revenir, et peut-être que frère Neville et moi, nous pourrons tenir un bon réveil à l'ancienne mode ici, pour quelques soirs, en prêchant la parole. Et quelqu'un m'a rencontré justement aujourd'hui, voulant être baptisé dans la rivière. Je serais heureux de baptiser n'importe qui, n'importe où. C'est très bien. Maintenant, vous, vous êtes toujours les bienvenus au Branham Tabernacle. Nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes pas contre les dénominations, mais nous ne sommes tout simplement pas dénominationnels. Alors vous êtes toujours bienvenus. Nous n'avons pas de carte de membre ici. Nous avons seulement de la fraternité les uns avec les autres. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Et jusqu'à ce que l'on se revoie de nouveau, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je prie que Dieu enlève la maladie au milieu de vous et vous donne un bon voyage à la maison en toute sécurité ce soir. Une bonne santé et de la force, espérant vous revoir ici mercredi soir. Jusqu'à ce moment-là, que sa grâce soit avec vous pendant que nous nous levons, si vous voulez. Merci. Juste le pasteur ici, frère Neville, s'il vous plaît, si vous voulez nous renvoyer avec un mot de prière.